Voilà, bonjour. Bonjour à tous, à vous qui êtes ici. Bonjour à ceux qui sont derrière un écran quelque part. Et on a un petit signe de Claude et Francine. Je ne sais pas où ils sont. Ils sont en vacances quelque part dans la nature. Ah, le chemin de Compostelle. Ah, mais c'est magnifique. Voilà, alors ils nous font signe aussi. Voilà, alors bienvenue dans ce temps de culte. Bienvenue de la part de l'Église évangélique de Mérin. Mais c'est d'abord le Seigneur lui-même qui nous accueille, qui vous accueille chacun. Le retour du printemps nous fait du bien. Mais parfois, ça ne suffit pas pour certaines douleurs intérieures. Ensemble, on se tourne vers Dieu, qui est vraiment la source de notre réconfort. On se tourne vers Dieu pour lui offrir notre reconnaissance et aussi pour écouter ce qu'il a à nous dire. Peut-être on a besoin de recevoir un encouragement parce qu'on a perdu courage, d'une consolation dans la souffrance, d'un renouvellement si on commence à perdre la foi, d'un avertissement si on commence à s'éloigner. Mais voilà, on est aussi ensemble pour le plaisir de se retrouver, pour prendre le café et discuter après le culte, pour partager. Et c'est très bien ainsi, c'est l'incarnation de la vie communautaire. Prions pour remettre ce temps de culte à Dieu. Seigneur, que ce matin, chacun de nous puisse sentir ta présence, que chacun de nous puisse se sentir rejoint là où il en est sur son chemin de foi et que tu nous encourages, nous avertisses, nous consoles avec ton immense amour. Amen. Et maintenant, nous accueillons aussi en particulier Jean-Claude et Licia Saillant. Alors, il y a sûrement beaucoup parmi vous qui ne les connaissent pas. En fait, Jean-Claude, c'est un enfant de Mérin qui a rejoint, il est même d'avant Mérin, parce qu'il a rejoint Mérin avant que ça soit Mérin. Voilà. Invité par les Sorex quand il était jeune. Et Jean-Claude et Licia sont donc des envoyés de notre église en Italie et de l'Afrique depuis très longtemps. Et je trouve intéressant qu'ils puissent partager avec nous un peu la vision d'une église incarnée dans la cité, dans les qui s'occupe des besoins des gens autour d'eux, parce que ça, je trouve que ça résonne avec ce qu'on essaye de vivre ici à Mérin. Et puis, Licia, elle a même écrit un livre récemment, le titre se traduit en français « Tu transformes la souffrance en danse », c'est juste. Voilà, ça évoque un petit peu aussi toute leur expérience de la souffrance qu'on rencontre partout et auquel Dieu donne des réponses. Voilà. Alors, je vous invite à venir ici. Je crois que c'est aussi bien d'avoir une fenêtre de temps en temps sur l'Église universelle et de ne pas rester seulement dans nos frontières mérinoises.
Voilà, bonjour à tout le monde, bon dimanche. Ça fait toujours plaisir d'être de passage, ça n'arrive pas souvent, donc c'est un double plaisir. Certains nous connaissent bien, certains ne nous connaissent pas, certains nous connaissent un peu, donc on va certainement dire deux, trois choses qui sont très connues de certains, puis qui sont nouvelles pour d'autres, mais je pense que ça fait partie un peu de la situation. Nous sommes en fait engagés actuellement sur deux axes, il y a deux logos, vous les comprendrez un peu plus par la suite. En fait, j'envoie des signaux de fumée à la régie, parce que je n'ai pas de commande pour, voilà. Si on devait faire une extrême synthèse de ce qui nous motive, c'est cette parole qui est très connue de Jérémie, de « Recherchez le bien de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel pour elle ». Car de son bien dépend le vôtre. C'est cette parole adressée au peuple qui était déporté. Et des déportés, on pourrait dire naturellement, ils ne sont pas très preneurs pour faire du zèle dans la communauté locale, dans la société locale. Et cette parole de Jérémie est très forte. Et je crois qu'elle nous interpelle aussi aujourd'hui, parce que des fois, on se sent en tant que chrétien, oui, on est de passage, on est citoyen d'un autre monde, on est citoyen du royaume. Tout à fait d'accord, mais en même temps, on est aussi appelé à vivre quelque chose dans le présent. Et cette parole, elle nous recentre à ce niveau-là. En fait, l'idée qui nous a beaucoup animés au fil du temps, c'est que l'Église doit faire un peu la différence. On a eu l'occasion de faire une fois un stage d'une année aux États-Unis dans une église, et une fois dans un moment de partage avec le pasteur senior, il nous disait, vous savez, une question qui est très utile, c'est de se demander si notre église fermait demain matin, est-ce que les gens du voisinage s'en apercevraient? C'est une bonne question. Ou est-ce qu'ils diraient, ouf, ils ne sont plus là? Alors c'est à voir, à vous de vous poser la question. Je crois que je suis assez optimiste pour mes reins, mais enfin, il faut vraiment se poser des questions, et on est là pour faire la différence, un peu audace comme formule, mais enfin, notre foi, notre spiritualité doit être branchée sur les besoins de la société dans laquelle nous vivons. Moi, j'aime bien parler de spiritualité incarnée. Il faut qu'on soit près du vécu des gens, et ça a des implications dans des tas de domaines. Alors, sans rentrer dans toute l'histoire de notre long service en Italie, on va brièvement vous indiquer les... Ah oui, il faut que je sois prêt. Ouais, j'avais déjà dit, moi, les micros. Puis vous savez, en Italie, on... Bon, vas-y, Licia, mais à toi l'honneur.
Alors, le vestiaire et l'aide alimentaire, c'est l'arbre de vie, donc notre ministère qui s'appelle Arbre de vie. C'est que l'Église ouvre ses portes, et au lieu d'attendre que les gens entrent chez eux, c'est l'Église qui sort vers les gens et va les rejoindre dans leurs besoins, dans ce qui sont les besoins qu'ils ont tous les jours. Et chez nous, on a aussi beaucoup d'immigrés, beaucoup de migrants, des gens qui quelquefois ils passent seulement, quelquefois ils s'arrêtent. Et quand ils arrivent, ils n'ont rien, rien. Ils ont besoin de tout, ils ont besoin d'assiettes, ils ont besoin de verres, de draps, de tout, et d'habits. Et alors on a commencé ça, ça fait déjà 5 ans qu'on est dans l'église qu'on fréquente maintenant, mais on a fait déjà 5 ans dans une autre église, et on a connu tout plein de monde. Beaucoup viennent de l'Afrique, beaucoup viennent, on a une dame iranienne, on a beaucoup de gens qui viennent de l'Est, l'Europe de l'Est. Et donc le mercredi matin, je suis là pour accepter l'habit que les autres nous donnent, des habits en bon état. Quelquefois on doit les laver, mais on accepte ces habits et aussi tout ce qui concerne une maison. Et puis l'après-midi, on fixe des rendez-vous, et on a actuellement on sert 300 personnes. Ça ne veut pas dire 300 familles, 300 personnes en comptant les enfants de la famille. Et puis, je voulais dire une chose aux plus jeunes qui sont là ce matin. Donc, je vous vois. Vous n'êtes pas mélangés avec les grands. Je vous vois très bien. Et il y a un jour, Jésus a dit à ses disciples, il a dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez donné des habits. Et les disciples, ils ne comprenaient pas, mais Jésus, quand est-ce qu'on a fait ça? Ils ne se rappelaient pas qu'ils avaient fait ça. Jésus a dit, lorsque vous le faites à un de mes frères, les plus petits, ma Bible en italien, je suis italienne, ma Bible en italien dit les minimes. Ça existe, minime en français, le mot minime, c'est le plus petit, vous l'avez fait à moi. Alors notre but avec le vestiaire, c'est de faire ce que Jésus a dit. Vous savez, les minimes... c'est ceux dans les classes que personne ne voit, ou bien on aime rigoler d'eux parce qu'ils ne sont pas tout à fait comme nous. Je ne sais pas s'il y en a dans votre classe. Il y a des garçons comme ça, ceux que personne ne choisit. Quand il faut faire les équipes, personne ne les choisit. Eh bien, si vous avez des personnes comme ça dans votre classe, il faut prendre soin de ces gens, de ces enfants, de ces jeunes comme vous, parce qu'ils ont besoin de quelque chose, ils ont besoin d'amour et vous pouvez le faire. Jésus a dit, si vous l'avez fait à un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc notre but avec le vestiaire, c'est de faire exactement ça.
Donc le vestiaire était vraiment une bénédiction dans le sens que ça a permis à l'Église de sortir du ghetto, c'est-à-dire d'avoir un impact dans le voisinage. Les personnes qui n'auraient jamais mis les pieds dans nos locaux d'église viennent au vestiaire, des gens du voisinage nous apportent des affaires, nous disent qu'ils apprécient ce qu'on fait, etc. Puis aussi des fois des affirmations surprenantes. Je me rappelle une fois, Alicia me disait, une dame qui est venue au vestiaire, elle dit, « Oh, vous savez, moi je chante dans la chorale de ma paroisse, mais vous chantez nettement mieux que nous. » Bon, on prend ça aussi au passage, comme les locaux de l'association sont à côté des locaux de l'église. Ça nous a donné des tas de contacts aussi avec l'administration locale. Le maire était là lorsqu'on a inauguré nos locaux. Les autres associations, enfin, on sort du ghetto. Et en Italie, ça veut dire beaucoup parce que historiquement, le monde évangélique a toujours été très minoritaire et très persécuté. Donc, quand on est persécuté et minoritaire, on se referme facilement. Donc, des projets comme ça sont importants. Puis, je crois qu'aujourd'hui, c'est fondamental si on veut que l'Église puisse continuer, parce que, en tout cas, on voit dans notre contexte, l'évangélisation traditionnelle a de plus en plus de difficultés. Le deuxième, rapidement, ce qui est le ministère qui, au fil des années, nous a beaucoup, dans lequel on a beaucoup investi. On avait commencé en gros en 1990, c'est pas hier. C'est un ministère couple et famille. Quand on a démarré, c'était assez pionnier en Italie. Et là, on développe des initiatives, j'en ai mis quelques-unes, il y en a qu'on a dû arrêter parce qu'on ne peut pas tout faire, mais en fait, on fait un peu du conseil conjugal, on organise des séminaires à thème. La chose qu'on aime le plus en absolu, c'est les camps famille l'été. On en a encore un au programme l'été prochain du 17 au 24 et on est très réjouis, c'est vraiment des moments forts et une chose qui nous réjouit en passant, on a des gens de tout milieu qui viennent. On a eu des catholiques, on a des pentecôtistes qui viennent avec à côté de gens d'assemblée de frères ou des baptistes, un mélange. Et ce qui est chouette, à la fin des camps, certaines personnes nous regardent et nous disent c'est fantastique, pendant une semaine on est ensemble, on est très différents, on fréquente des milieux différents, puis ça s'est bien passé. Ben oui, c'est aussi un effet secondaire des camps familles. Il faudrait qu'il y ait plus de responsables d'église qui viennent, mais ça c'est un autre chapitre. Qu'en famille, on fait aussi un peu de préparation au mariage, on a un matériel. Puis bon, là, je l'ai mis parce que c'est vrai, c'est pas pour faire de la pub gratuite à Licia, mais elle est très demandée comme oratrice pour des rencontres féminines. Elle vient de parler à Poggio, près de chez nous, à une rencontre nationale avec 150 femmes et elle est très appréciée et on est content de ça. Il y a aussi le chapitre publication, on a traduit, publié, je ne rentre pas dans les détails, et puis comme a dit Sylvain, Licia a pu. C'est un projet qui a pris du temps. Et la période du Covid a beaucoup aidé parce que comme on ne pouvait rien faire à certains moments, Licia a repris le projet de ce livre qui en fait parle un peu de la résilience, mais dans une perspective aussi biblique, chrétienne, la résilience. Voilà, ça c'est en gros notre engagement. Et si vous voulez, deux associations, la première pour servir le voisinage, si on simplifie, la deuxième, INSIEME, qui veut dire ensemble, vous l'avez compris, servir les familles. Voilà, c'est un peu ce que nous vivons actuellement. Et peut-être juste ajouter ceci, pour nous, Mérin est quand même notre base de départ, et pour nous, le lien avec vous est vraiment important. Ça nous fait, on se sent moins seul sur le terrain dans le type d'engagement que nous avons. Voilà, merci, et puis on sera là à la fin du culte si vous voulez nous poser des questions.
Merci pour ce que vous avez partagé. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ils sont censés être à la retraite. Alors que Dieu bénisse votre retraite très active et bénéfique. Et on va prier pour vous. Seigneur, nous te remercions pour le ministère de Jean-Claude et Licia, pour tout ce qu'ils peuvent apporter là où tu les as placés en Italie. Nous te prions que tu les bénisses, que tu bénisses aussi leur famille, et que tu fasses fructifier leur ministère. Merci de leur donner les forces de continuer à te servir. Dans le nom du Christ. Amen. Voilà, un temps de louange. Merci à David et Barbara, à Sylvie et à Jean-Claude pour leur de nous emmener dans ce temps de louange.
Merci Jean-Claude, merci Licia pour votre témoignage. Soyez les bienvenus ici à la maison, si j'ose dire, en tout cas un petit peu, comme je viens de comprendre. C'est la maison. Que chacun d'entre nous puissions nous sentir à la maison ici, ceux qui viennent depuis très longtemps, ceux qui, voilà, qui ont été envoyés, ceux qui reviennent, ceux qui sont là aussi depuis quelque temps, les jeunes, les moins jeunes, soyez tous les bienvenus. On est dans une grande maison, une grande famille. La famille, c'est pas toujours facile à vivre, mais voilà, qu'on puisse avoir ce temps d'apprendre à se connaître les uns les autres et qu'on puisse, surtout, ce qui nous rassemble, ce qui nous fait venir ici ce matin, c'est notre Dieu qui nous rassemble et on veut l'honorer pour qui il est. Les paroles du Christ, elles sont certaines, on peut s'appuyer sur ses promesses. Alors chantons Hosanna, un chant s'élève, un cri d'acclamation que le peuple a chanté quand Jésus est rentré dans Jérusalem le jour des rameaux, un jour d'espoir où nos vies seront restaurées.
Thank you. Saint-Esprit, que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité. À jamais levé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité.
Chant prophétique relaté dans la Bible qui nous parle du royaume de Dieu lorsque les chrétiens seront tous réunis et glorifieront ensemble le roi de gloire Jésus. Ce futur, il est imagé dans le livre de l'Apocalypse et le peuple des croyants, l'Église, elle est comparée à l'épouse du Christ. Christ, Jésus-Christ, comparé au mari de l'Église. Et c'est un peu ce qu'on chantera dans le deuxième couplet. L'épouse fidèle qui dit « Viens au Jésus, toi l'époux bien-aimé. » Et ce chant nous introduira dans le moment de Sainte-Cène qu'on vivra juste après.
Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes. comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'Épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle.
C'était Jean-Pierre et pas Jean-Claude au piano. J'ai été influencé, je pense, par l'autre Jean-Claude. Les enfants vont descendre et les jeunes du caté aussi. C'est le dimanche du caté input. Ça veut dire qu'ils vont participer concrètement à différentes choses, dont vous servir le café après le culte. Prions pour ces enfants et ces jeunes. Seigneur, nous te remettons tous les enfants qui sont présents aujourd'hui, même ceux qui n'ont pas pu venir. Nous te remettons leurs moniteurs et nous te prions que voilà quelque chose d'essentiel de ton amour leur transmette, leur soit transmis et leur parle aujourd'hui. Dans le nom du Christ. Amen.
Amen.
Nos chants célèbrent la grandeur de Dieu. Avec la Sainte Cène, nous nous remémorons que la grandeur de Dieu, c'est avant tout la grandeur de son amour manifesté à la croix, la grandeur d'un Dieu qui s'est fait serviteur et qui offre sa vie pour notre salut. Nous venons de chanter les louanges à l'agneau de Dieu. Dans le texte de l'Apocalypse, dont est repris ce cantique, on attend le lion de Juda, symbole de la force du roi, et il arrive un agneau immolé. Je crois que ce choc des images montre une toute autre sorte de grandeur que celle que recherchent tant d'hommes de pouvoir aujourd'hui, ainsi que tous leurs supporters. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le règne de mon Père. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête. Puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Nous prions. Seigneur, nous partageons le pain et le vin en souvenir de ce dernier repas que tu as pris avec tes disciples. Que ton esprit nous fasse comprendre la profondeur de ton amour, l'immensité de ton pardon, et qu'il nous rende capables à notre tour d'aimer et de pardonner. J'invite les personnes chargées de la distribution. Voilà, vous avez une petite explication visuelle sur la manière dont la distribution se fait, et ceux qui souhaitent la coupe, Philippe, vous levez la main, Philippe vous la portera. prions ensemble la prière que Jésus lui-même nous a apprise et qui est aussi la prière commune de toutes les églises chrétiennes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit rendu saint, soit à part, au-dessus de tout. Plus je scrute le ciel, les étoiles, la nature, la création, plus je constate la majesté de Dieu. Et quand je vois ce magnifique arrangement floral, c'est juste, moi ça me touche, je trouve extraordinaire ces fleurs qui sont arrangées de belle manière. Merci à celle qui l'a préparée, je crois que c'est Denise. Et puis, ça m'entraîne à louer la sainteté de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Majestueux.
ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi
majestueux. Bonjour à chacun, à chacune. Je vous rappelle qu'on a démarré cette formule d'entendre questions-réponses à l'issue de la prédication avec l'application Slido que vous trouvez facilement avec une petite recherche en ligne. Et le numéro du Slido du jour est ici le 381-36-97. Numéro à renseigner pour interagir avec l'application. Et tout à l'heure, en fin de prédication, nous prendrons quelques questions si vous en avez. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tant d'autres choses que nous pourrions proclamer quant à la grandeur, à la majesté de Dieu. Et pourtant, ce Dieu-là, infiniment grand, majestueux, éternel, puissant, ce Dieu-là nous invite à l'appeler notre Père. Et nous démarrons ce matin, ce sera sur 4 dimanches, la suite après Pâques, mais une réflexion autour du Notre Père. En moins de 80 mots, Jésus nous donne là une prière à apprendre par cœur et une prière à faire entrer dans nos cœurs, qui va pouvoir façonner, je crois, notre façon de vivre. Le Notre Père vient du cœur de Dieu, vers nos cœurs. C'est une prière stimulante. Dieu nous apprend à prier. Et il nous apprend aussi à vivre. Parce que le Notre Père, c'est également une invitation à vivre différemment, à vivre comme Jésus nous le montre. Dans le Notre Père, nous offrons à Dieu nos remerciements et nos préoccupations. Et cette prière va venir nous enseigner, je crois, quelque chose. Elle va venir nous enseigner ce qu'en fait nous devons vouloir, ce dont nous avons vraiment besoin, ce que nous devons demander. C'est une prière qui forme nos cœurs. De notre Père. Je dois vous faire une confession. Quand Heidi et moi nous sommes arrivés ici en 2017, bientôt 8 ans, je ne connaissais pas le Notre Père par cœur. Ça faisait 18 ans que j'étais pasteur. 4 ans d'études en théologie, nombre de séminaires, de bouquins lus. Et j'étais incapable de dire le Notre Père par cœur. Je l'ai appris ici. Le premier dimanche où j'étais là, c'était Claude Bécher qui prêchait. Et puis, assez naturellement, je ne sais plus comment, un peu comme ce matin finalement, le Notre Père s'est enclenché. Et je ne savais pas le dire. Et ça m'a saisi de honte. Parce que les paroles, les mots, tout ça, ça vient plutôt tout seul. Et là, je ne savais pas le dire. Je l'ai appris avec vous. Il a enrichi ma foi d'une façon que je peine encore à exprimer. Je vais essayer de le faire au cours de cette courte série. Le Notre Père part du cœur de Dieu. Il passe par Jésus. Pour arriver à nos cœurs et à travers nous au monde entier, afin que nous puissions toutes et tous prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Notre Père, c'est l'une des prières les plus célèbres du monde. Pour de nombreuses personnes, c'est la première prière qu'elles apprennent, pas moi. Elle est priée chaque jour par des millions de personnes à travers le monde. Et au dernier recensement de la Société biblique internationale, elle a été traduite en 1438 langues. La prière du Notre Père, elle se concentre d'abord sur Dieu et ensuite sur nos propres besoins, ce qui me semble être plutôt un bon pli. Se concentrer d'abord sur Dieu, puis sur nos propres besoins. Les thèmes explorés comprennent le ciel, la sainteté, le quotidien, le repentir, le royaume de Dieu, le pardon, le mal, la puissance de Dieu. Je vous propose donc de nous pencher sur l'actualité, la pertinence, la force de cette prière. Comme dit en quatre fois, donc tout ne sera pas dit ce matin. Je vous invite à la lecture du texte et puis à ce qui l'introduit d'abord. Matthieu 6, 5 à 13. C'est le Christ qui parle et il dit ceci: « Quand vous priez, vous ne serez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses, comme les païens. Ils pensent qu'ils seront exaucés en multipliant les paroles. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Dans les versets 5 à 8, Jésus commence par mettre ses auditeurs en garde contre deux grandes erreurs, deux grands écueils. D'abord, il nous met en garde contre l'erreur des religieux, les pharisiens, les religieux, les spécialistes de la religion. Leur erreur à eux, c'est l'hypocrisie. Paraître prier, mais en fait, chercher l'attention des hommes à la place de celle de Dieu. Et puis Jésus met ses auditeurs en garde contre un deuxième écueil, c'est l'erreur des païens, verset 7. La prière mécanique, répétitive, rabâchée. Et Jésus nous dit, faites attention, ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Face aux hypocrites, Jésus dit que les critères d'une vraie prière, ce sont la sincérité, l'intimité, la vérité des mots. Face à la prière répétitive du païen, Jésus met en avant la nécessité de la réflexion dans le cadre de la prière. Ce n'est pas que intuitif, dit-il, verset 7. Pas de bavardage, pas de parole en l'air. Prier, ce n'est pas être un moulin à paroles, entraîné par le vent ou par une main distraite. Prier, ce n'est pas un rite à répéter à l'infini comme une superstition. Notez bien que Jésus ne condamne pas toutes les répétitions, parce que lui-même, il a prié plusieurs fois avec les mêmes paroles. Par exemple, à Gethsémané, Matthieu 26, verset 44, il pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Donc Jésus ne condamne pas toutes les répétitions. On peut penser à Luc 18, en A8, avec cette parabole du juge inique et de la veuve insistante qui finit par obtenir raison. Et il nous invite, Jésus, là, à revenir devant Dieu souvent, avec la même requête. Mais il y a une grande différence entre la répétition mécanique, superstitieuse, et une répétition réfléchie, raisonnée. Quelque chose qui montre notre désir de voir Dieu à l'œuvre. Une recherche sincère de la volonté de Dieu, de la gloire de Dieu, de l'action de Dieu. Mais quelque chose de mûri intérieurement, de réfléchi, d'écrit peut-être. La répétition mécanique, superstitieuse, nous dit Jésus, est absurde. Elle croit que Dieu s'attache au volume, à la quantité, à la fréquence des mots. La répétition réfléchie, raisonnée, c'est que Dieu me veut persévérant dans l'expression de ma foi en lui. Verset 8. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Quand je lis ça, moi je suis stoppé net. Avec une question qui m'assaille, peut-être vous y avez déjà pensé aussi, mais quand même, si Dieu sait de quoi nous avons besoin avant même que nous le lui demandions, pourquoi nous invite-t-il à lui demander, s'il sait ? C'est quoi le but de la prière ? C'est quoi son sens, son efficacité, sa nécessité ? Si Dieu sait de quoi nous avons besoin avant même que nous le lui demandions, est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'impasse sur la prière et puis le laisser répondre ? Pourquoi prier si Dieu sait ? Je suis le seul à me poser cette question. Alors, il y a des tentatives de réponse qu'on peut d'emblée éliminer. Dieu ne nous demande pas de prier pour nous renseigner sur nos besoins. Il les connaît. Si Dieu est Dieu, il voit bien ce dont nous avons besoin. Guérison, encouragement, liberté. Il voit si Dieu est Dieu. Dieu ne nous demande pas de prier pour l'aider à vaincre d'éventuelles hésitations à nous répondre. On ne fait pas changer Dieu. On ne peut pas forcer la main à Dieu. Dieu ne se dit pas « Purée, enfin il m'a prié, je vais changer d'avis et puis je vais lui donner ce dont il a besoin. » Parce qu'avant, je m'y refusais. On n'a pas un Dieu qui est comme ça. Ça, c'est un Dieu fait à l'image des hommes. Dieu ne nous demande pas de prier pour lui rappeler de faire son travail. Moi, je crois que Dieu, il est toujours dans le timing parfait. Généralement, je le découvre après. Mais Dieu est toujours dans le timing. Alors, quelle réponse je peux essayer d'apporter à cette interrogation ? Pourquoi Dieu veut-il que nous prions ? Je crois que Dieu attend que nous lui manifestions notre foi, notre attachement, notre dépendance, que nous reconnaissions que nous ne sommes pas autosuffisants. que nous avons besoin de plus grand, plus fort que nous. Et puis Dieu veut entretenir une relation avec nous. Remarquez les termes de la prière. Ce n'est pas éternel puissant. C'est notre Père. Avec toutes les complications autour de l'image du Père, tout ça, je sais, peut-être on en parlera un jour. Mais quand même, c'est un Père. Pas un papounet. Un Père. Dieu veut que nous prions pour que nous revenions à la source de tout bienfait, de toute grâce, de toute vraie délivrance, matérielle, physique, spirituelle, morale. La prière modèle que Jésus donne à ses disciples ouvre le chemin de cette prière à la fois réfléchie, simple, vraie. Apporter à Dieu en temps réel nos besoins réels. Rechercher devant lui ce qui compte vraiment, ce qui contribue d'abord à sa gloire, puis ce qui nous est nécessaire, ce qui nous fait progresser, tout en lui laissant en fin de compte toute la place qui lui revient de droit. Si nous cherchons seulement en nous-mêmes ce dont nous croyons avoir besoin, nous allons commettre des erreurs. Nous allons être égoïstes, orgueilleux, nombrilistes. Ça va venir entacher notre prière. Mais si nous nous présentons devant Dieu, qui est notre Père, alors il nous connaît vraiment. Et nous pouvons réfléchir sainement à notre relation avec lui, à notre situation, à nos vrais besoins. Avec le Notre Père, je crois que Dieu veut nous responsabiliser face à notre vie tout entière. Tout y est dans le Notre Père. Nous y reviendrons. La prière, c'est donc un temps pour réfléchir. S'isoler un peu du brouhaha de la vie. Faire le point devant le Seigneur. Essayer de vouloir ce que Dieu veut pour nous. Prier, c'est pour mieux vivre. Je sais que c'est souvent la cinquième roue du carrosse, même dans ma vie. Mais je suis absolument convaincu que la prière nous est offerte pour que nous puissions mieux vivre. Laisser de côté ce qui doit être laissé de côté et se concentrer sur ce qui est prioritaire. Ce dialogue avec Dieu, c'est mieux vivre. Non pas les yeux fermés, aveugles, insensibles aux autres, mais avec les yeux bien ouverts sur tout ce qui fait notre vie. En priant, nous faisons devant lui l'effort journalier de comprendre ce qui est nécessaire, souhaitable. Nous faisons l'effort journalier de dire merci à l'auteur de toute notre vie, de tout notre bien. Merci. En priant, nous faisons devant lui l'effort journalier de chercher aide et secours à la source. Le Notre Père, c'est une prière modèle qui conduit à l'essentiel. Notez la concision de ces mots. Elle implique des requêtes précises. Elle exige cette prière d'en rester à ce qui compte, à ce qui est essentiel. Elle démontre qu'au-delà des mots, ce que Dieu attend de nous, c'est la sincérité d'un contenu. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, donne-nous. Ce « nous », il doit être plus que jamais souligné. C'est une prière qui est englobante. Ce « nous », il exclut l'égoïsme des requêtes qui voudraient accaparer Dieu pour soi. Ce « nous », il manifeste une solidarité avec le peuple de Dieu. Il tient compte de la famille de Dieu. Ça n'exclut pas le « je » dans la prière. Et là encore, le Christ va en donner l'exemple. Il y a des besoins légitimes, il y a des requêtes personnelles qu'on doit pouvoir exprimer à Dieu, bien sûr. Mais ce « nous-là », il exclut le « je » permanent. La prière nombriliste. Au-delà des requêtes personnelles, il doit y avoir un vrai souci du bien du peuple de Dieu. Moi, je remarque un glissement. 25 ans de pastorat, des fois, on commence à oser un peu d'analyse. Depuis quelque temps, je vois un glissement dans les églises, où le « nous » est laissé de côté au profit du « je ». Regardez la composition des cantiques modernes. On a des formidables, mais ils sont rarement en nous. Nos prières sont rarement en nous. Nos confessions sont rarement en nous. Parce que nous vivons dans une société où l'individu compte plus que la communauté. Ce « nous » du Notre Père, il montre qu'on n'est pas seul sur la ligne de départ, qu'on n'est pas seul sur la route, qu'on est ensemble. C'est cela que le Notre Père encourage. Le « nous », la prière pour la famille et par la famille de Dieu. Je finis avec quelques mots sur l'entame de la prière. Cette prière modèle, vous l'avez peut-être noté, elle a trois parties, avec trois points dans chacune. Dieu, son nom, son règne, sa volonté. Nous, le pain, le pardon, la protection morale. Dieu, son règne, sa puissance et sa gloire. C'est une structure. Alors je dis juste quelques mots encore de la toute première partie du Notre Père qui met en perspective cette prière modèle. Les trois premières requêtes nous mettent sur le but à viser dans la prière. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu, c'est tout ce que Dieu est et représente pour nous, son peuple. Il est saint. Dieu est saint. Et nous désirons que tous le reconnaissent, l'honorent, saint. Que son nom soit sanctifié. Que la personne de Dieu soit reconnue pour ce qu'il est. Il est saint. Il faut pour cela que son règne vienne. Son règne, c'est ce que Dieu veut établir et un jour manifester de manière glorieuse. Je sais qu'on a de la peine à voir ça parce qu'on est tellement accaparé par le quotidien qu'on n'arrive même plus à imaginer qu'un jour Dieu va venir établir son règne glorieux. Que ton règne vienne. Et vous et moi, je crois qu'on appelle ce jour de nos vœux, de nos prières. On se languit de voir son royaume ne plus être contesté par des hommes et des femmes inconscients ou par Satan qui s'y oppose avec acharnement. Que son règne vienne. Et il faut donc que sa volonté soit faite. Sa volonté, c'est l'expression concrète de son règne. Et si sa volonté doit être faite, elle doit d'abord être discernée, comprise, voulue, mise en œuvre par nous, les croyants, ici-bas, sur terre, avant de l'être au ciel. Alors ces trois requêtes, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, vont impliquer beaucoup de choses en ce qui concerne nos priorités. Est-ce que nous voulons vraiment que son nom soit sanctifié? Est-ce que nous voulons vraiment que Dieu soit reconnu comme saint? Est-ce que nous avons envie que son règne vienne? Est-ce que nous voulons que sa volonté soit faite? Et si nous répondons oui à ça, comment est-ce que nous le manifestons? Bien souvent, les hommes et les femmes de ce monde sont surtout préoccupés par leur nom, leur réputation, leur soif de paraître, leurs envies, ce qu'ils veulent eux. être quelqu'un, être entendu, reconnu. Et tout autour de nous le rappelle, hein, vous le valez bien. Vous le valez bien. Ceci conduit chacun à protéger, à embellir son petit royaume, à le soigner pour qu'il mette en valeur son ego, son moi profond, son accomplissement. Ce qui compte, c'est que mon nom soit respecté, c'est que moi j'obtienne raison, c'est que ma volonté soit faite, c'est que mes droits soient reconnus, affirmés. Mon nom, mon règne, ma volonté, parce que je le vaux bien. J'entends tellement de phrases qui commencent par « moi, personnellement, je ». Triple affirmation que ce qui compte, c'est moi. Alors que ce que Jésus place en premier dans notre Père vient bouleverser tout ça. Ah, il l'avait déjà fait par les béatitudes, hein, c'est le grand renversement. C'est vraiment autre chose que Jésus veut que nous cherchions. Il attend que nous suivions un autre cap. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je suis prêt à m'effacer. Je suis prêt à renoncer à ce qui compte tellement pour moi, ce que je mets en avant, mes petits combats. Je suis prêt à renoncer à ce que je garde précieusement, ma vie. Parce que Père, je me souviens que tu as dit que celui qui voulait conserver sa vie la perdrait, mais que celui qui la perdrait pour moi la garderait éternellement. Alors Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à comprendre que tout ne tourne pas autour de moi. Que mes petits avis, surtout mon désir d'être connu, reconnu, d'avoir raison dans l'histoire du monde, bon, ça arrivera nulle part. Mais que toi, si tu es reconnu comme saint, si ton règne vient, si ta volonté qui est empreinte d'amour, de fidélité, de générosité peut se développer, qu'à quelque part je peux être un agent, une agente de ton règne et de ta volonté, eh bien je serai dans le bon camp. Et j'aimerais, Seigneur, mon Père, que ton règne vienne. Amen. Quelques instants pour finaliser vos questions si vous en avez, et le temps pour moi d'en prendre connaissance pendant que l'équipe musicale nous entraîne dans un interlude musical. très fort, une fois de plus. Et le temps m'étant compté, je ne vais pas pouvoir prendre toutes les questions. Je redis juste une fois encore, mais je crois que je le dirai régulièrement, le temps Slido, ce n'est pas un temps de prédication. Voilà, le temps de prédication, on le prend avant. C'est un... La prédication, elle est préparée, elle est réfléchie, elle est mûrie. Les questions, ben, on y va un petit peu plus au débotté. Et je demande à Dieu simplement voilà, aussi de m'éclairer quand je tente de donner peut-être un début de réponse. Donc plusieurs questions, puis vous pouvez donc voter pour les questions. Je vais prendre, je pense, les quatre premières questions. L'intention de Jésus était-elle de nous donner une prière à apprendre par cœur ou de nous donner un modèle de prière? Les théologiens s'écharpent hein, sur cette question. La théologie de nos églises aussi. Pour faire court, moi j'ai quand même l'impression que Jésus est assez catégorique. Vous donc, priez ainsi. C'est pas du grec compliqué. Jésus nous dit, quand vous priez, priez comme ça. Donc je crois vraiment qu'il y a là une prière à apprendre par cœur, à assimiler dans toute son épaisseur. Il faut mesurer le poids des mots. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les prédications. On mesure le poids des mots, mais c'est une inspiration aussi. Parce que par ailleurs, on le voit prier, et puis on voit Paul prier, Pierre prier, et tant d'autres prier différemment. Donc ce n'est pas une prière exclusive, mais en tous les cas, elle est prioritaire. Il me semble qu'on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Donc une prière à apprendre par cœur, parce que je crois qu'il y a une richesse de sens énorme, mais sans aucun doute aussi un modèle de prière. On peut penser au Dieu d'abord, à nous, et un Dieu à la fin. Ça, c'est une modélisation de la prière. On peut penser à la prédominance, comme dit, du nous. Pas une prière que pour soi, mais une prière en nous. Et tirer notre modèle de là, pour nourrir nos prières. Élément de réponse. Deuxième question. S'il faut éviter la prière répétitive, la faire dans sa chambre et préférer la prière intime, pourquoi la réciter en assemblée? Cela n'est-il pas mécanique? Eh ouais. L'impression qu'il y a un peu une mécanique hein, tout à l'heure. Quand tu nous entraînes dans le Notre Père, on a l'impression un petit peu d'une mécanique. Je donne la même réponse. Jésus tient en équilibre ici la prière intime que l'on fait dans notre chambre, dans notre bureau, sur notre vélo, en balade, aux toilettes, à la pause, à midi, quand vous voulez, mais où on cherche le cœur de Dieu, tout en disant le cœur de Dieu dans la prière est résumé dans cette prière. Il y a un risque d'être mécanique. Il y a un risque. Il n'y a que nous qui pouvons éviter ce risque. Dire comment je le prie. Qu'est-ce que ça signifie ce mot que je dis? C'est comme les chants. On pourrait chanter assez mécaniquement, hein, finalement. On pourrait dire des choses mécaniquement, faire des annonces mécaniquement. Qu'est-ce qu'on y met? Comment on se place devant Dieu? Ça, c'est le défi et pas le résoudre à 100 ce matin comme ça, mais j'aime prolonger l'échange en tête à tête, si jamais. Des conseils pour rester dans un état de prière et non pas divaguer dans des préoccupations quotidiennes. Moi, je vous dis comment je fais, mais ce n'est pas l'évangile, hein. Je vous dis comment je fais. Moi, j'ai besoin le matin d'un temps d'arrêt avec Dieu. J'ai besoin. Parce qu'autrement, à 11h, je suis cuit. J'ai besoin de lire ma Bible, j'ai besoin de prier, j'y consacre du temps. J'en ai besoin. Parce qu'autrement, la vie me prend une vitesse de dingo. Mais, au fur et à mesure de la journée, quand j'ai un entretien, quand il faut gérer le budget, quand il y a un truc un peu compliqué ou une grande joie, j'essaye de m'arrêter. Mais 12 secondes. Pas 5 minutes pour que mes pensées divaguent. 12 secondes. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ta sagesse. Seigneur, ces gens que je rencontre qui sont dans la peine, viens les consoler et aide-moi, s'il te plaît, à être consolateur. Seigneur, tu vois le défi du budget, là ? C'est un peu compliqué. Essaie de me rendre sage. Aide-moi à faire des courses équilibrées. Des trucs comme ça, c'est juste en passant. Tu es un exemple de mauvaise prière. Ce serait très orgueilleux de ma part de vous citer une mauvaise prière. J'en ai fait 100 000 dans ma vie, des mauvaises prières. Je sais que j'ai un grand Dieu qui les accueille aussi. J'essaye d'avancer un peu, de me dire là, t'es quand même très, très, très égoïste. Ou ta prière, elle ressemble tellement pas à ce que tu fais, essaye de t'accorder, mais peut-être moins de mots et un petit peu plus de cohérence. Mais j'ai pas d'exemple de mauvaise prière. Je m'arrête là parce que le temps passe, il est 11h20, purée. Merci beaucoup pour votre attention et puis... On se retrouve avec le Notre Père le 27 avril.
Voilà un temps d'offrande qui fait partie du culte parce que partager une partie de nos biens, c'est aussi une manière d'offrir un culte à Dieu. Cette offrande est libre. Totalement libre, l'Église vit des dons qu'elle reçoit.
Il faut une pochette.
Merci et nous demandons ta bénédiction sur cette offrande. Merci des dons qui nous permettent de vivre et de témoigner dans cette cité. Amen. Et 2 annonces. Dimanche prochain, c'est les rameaux. Célébration œcuménique au centre œcuménique qui est près du centre commercial à la cité. C'est une occasion de vivre quelque chose ensemble avec les autres églises de Mérin. Et il n'y a pas d'espace louange ni de culte ici. 2e annonce, il y a un groupe préparation de culte qui se retrouve à 2, qui ont besoin de renfort. Il s'agit simplement d'ouvrir les portes, mais en général, il n'y a même pas besoin parce que les musiciens viennent plus tôt. Et puis de préparer la Sainte Cène, de sonner les cloches 5 minutes avant, et puis d'assurer la fermeture des portes après le culte. Mais vous trouvez toujours une bonne âme pour fermer quand ça se prolonge et que vous devez rentrer. Autre annonce ?
J'ai juste une autre annonce encore à vous passer autour de Pâques. Donc nous aurons un culte de Pâques le dimanche 20, ici, à 10h. Mais le vendredi saint, le vendredi 18 avril à 18h, nous aurons ici un temps de réflexion autour de la signification de la mort de Christ, en se posant cette question: qui est responsable de la mort de Jésus? Et puis David et une équipe nous entraîneront dans des temps de louange, de méditation. Je vous invite à participer à cette célébration et à inviter. Ce sera aussi l'occasion d'une annonce claire, j'espère, de l'évangile du salut. Vendredi 18 à 18h.
Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. La bénédiction, c'est dire du bien, et c'est un dire qui fait du bien. Sous forme de prière. Seigneur, tu nous veux du bien à chacun de nous, mais tu veux aussi que notre vie fasse du bien autour de nous. Que ta présence nous accompagne et nous inspire tout au long de cette semaine, pour que ta présence se manifeste autour de nous. Amen. Bonne semaine à chacun. Bon café avec les jeunes du caté.